prochain pour votre très aimable invitation, pour ne pas vous parler des troubadours. plutôt de leur successeur, enfin j'imagine, j'aurais besoin de votre aide pour en discuter. À savoir ce que l'on appelle les jongleurs et les ménestrels, et sur un type de documents, de sources différentes de ce qui a été vu ce matin et puis hier, à savoir les manuscrits enluminés, les figurations, représentations des jongleurs et des ménestrels, et à une période plus tardive, donc entre le XIIIe et le XVe siècle. Ça va, on est d'accord.
C'était la commande.
Donc nous allons voir des représentations de la performance de ces musiciens, entre guillemets, et plutôt les observer sous l'angle de l'image. Qu'est-ce qu'une image? Donc ce qui complique les choses, en fait. Alors ce sont mes sources principales de mes recherches sur les jongleurs et les ménestrels, c'est-à-dire les manuscrits enluminés, et pour aujourd'hui, j'ai choisi les manuscrits, les livres commandés, offerts, ou est utilisé par les nobles, hommes et femmes. Donc ce n'est pas la totalité de mon corpus, mais j'ai ciblé ces manuscrits-là, et en particulier ceux qui ont été, on va dire, vus, utilisés dans les cours du Royaume de France, d'Angleterre, et puis pour le XVe siècle, à la cour de Bourgogne. Alors durant cette période, du XIIIe au XVe siècle, et dans l'ordre chronologique, le corpus des manuscrits recoupe principalement un type de manuscrit, c'est-à-dire les psautiers, les livres d'heures, les bréviaires, donc tout ce qui est livres de prière, quelques rares bibles, auxquelles s'ajoutent à partir des années 1330-1350, surtout des manuscrits, des textes que vous connaissez mieux, des œuvres entre guillemets poétiques, et surtout des chroniques et des romans. Alors dans ces manuscrits sont peints des jongleurs et des ménestrels. Alors il faut les étudier. La démarche consiste à observer les formes figurées, figuratives, essayer de comprendre leur sens selon le contexte, selon le type de manuscrit, et puis les transformations aussi de ces images entre le XIIIe et le XVe siècle. Donc, pour ma part, je croise l'histoire culturelle, l'histoire sociale de la musique, l'histoire des images, l'anthropologie historique des images aussi, puis un tout petit peu, entre guillemets, la littérature, mais là, vous me direz. Alors, donc, pour étudier ces images, tout d'abord, je rappellerai, mais en deux mots, les contextes de production de ces manuscrits, parce que ces manuscrits sont indissociables des lieux et des milieux de la performance musicale. Là où il y a des livres, il y a aussi des chanteurs, des poètes, des jongleurs. Et ces lieux et ces milieux sont les cours septentrionales, comme je l'ai dit, sur la période XIIIe-XVe siècle. Et dans ces cadres culturels et sociaux des cours, j'essaierai de voir, alors je serai prudente sur les mots, mais je m'interroge sur le statut entre guillemets des auteurs de ces images, c'est-à-dire de ceux qui les ont pensées. Oui, j'ai fait exprès de dire auteur, mais si vous trouvez un bon mot, je le prends. Donc, ces auteurs, c'est-à-dire ceux qui ont pensé, conçu, imaginé, créé ces images, ceux qui les ont peintes, c'est parfois les mêmes et parfois pas les mêmes, et pour l'essentiel, ce sont des lettrés. Ce sont des érudits. Alors, en histoire de l'art, on peut les appeler plutôt des concepteurs d'images. Voilà, c'est l'enlumineur, mais parfois ce n'est pas que l'enlumineur. Alors, ils sont à l'origine de ces figurations des jongleurs et des ménestrels dans les manuscrits de cour. Et à mon avis, ce sont eux la pièce maîtresse de ces documents, et ils ont un rôle important dans les cours, tout autant que les jongleurs qu'ils représentent. Alors, pour essayer de comprendre qui étaient et comment fonctionnaient ces concepteurs d'images, je suis désolée, c'est vraiment pas très joli, hein, enfin bon, si on trouve un autre terme, eh bien, j'essaie de retrouver quels sont les modèles hérités, les modèles savants qu'ils utilisent pour fabriquer ces images. Les travaux de Mary Carruthers, entre autres, m'ont aidé. Comment ces images ont-elles été transformées au contact des milieux musicaux, des cours, des villes, parce que les musiciens, les poètes, les jongleurs circulent, mais les peintres aussi. quel décalage et quels anachronismes c'est cette mobilité des peintres, des enlumineurs ont créé. En fait, ils participent des transferts culturels entre des milieux cléricaux, les villes et les cours. Et puis ensuite, je retracerai très rapidement là aussi la généalogie de ce qu'il représente, c'est-à-dire un jongleur d'abord. On verra d'abord le jongleur, 13e, 14e siècle. D'où vient-il donc, pour comprendre à partir de cette généalogie comment ils ont pu inventer au XIIIe siècle cette figure, la figure du jongleur. Et on pourra voir à quel point ces figurations des jongleurs sont très polysémiques. C'est des figures de discours ambivalentes et même parfois polyvalentes. Et puis enfin, à partir des archives et des images du XVe siècle, eh bien, je suggérerais que par rapport aux jongleurs, le ménestrel de cours, j'avance dans le temps, relèverait plutôt de la représentation, alors que le jongleur plutôt de la figuration, c'est ce que je vais expliquer. Et on essaiera de voir en quoi le ménestrel de cours, dans les manuscrits du XVe, participerait principalement de la représentation courtoise, de la mise en scène des pratiques, de certaines pratiques et de certaines cultures de cours de l'époque. Donc en fait, les contextes changent, donc les cours changent, donc les images changent et les musiciens changent. Alors la question générale, c'est de quoi ces images sont-elles l'image ? Qu'est-ce qu'elle représente ? Le poète, le jongleur, le ménestrel, le noble, le clerc, le lettré. Voilà, qui est derrière ? Alors tout d'abord, les contextes, mais c'est très rapide, hein. Les contextes de cours. Le contexte historique général sur ces cours royales, principes en France, Angleterre, Bourgogne, est trop fastidieux à retracer, puis vous le connaissez bien. Je rappelle seulement qu'à partir du XIIIe siècle, parmi les mutations sociales et culturelles dans les cours d'Europe, il y a les mutations ayant un lien, une influence directe sur la production des manuscrits et des images des jongleurs, ainsi que sur le statut de ces joueurs ou de ces instrumentistes dans les cours. Alors ces mutations sociales, très rapidement, vous les connaissez, c'est l'histoire générale, hein, des relations politiques et culturelles entre les différents cours. La formation des universités au début du XIIIe siècle et des ordres mendiants, la diversification des milieux de production des livres en ateliers urbains, pas seulement dans les monastères, mais aussi dans les villes, et avec ces différents lieux de production des manuscrits, eh bien, les nouvelles pratiques de l'écrit et de l'oral chez les clercs, mais aussi et surtout chez les laïcs. On pourra voir la poésie, la musique. Les échanges culturels entre les universités, les villes et les cours, et en conséquence, la position paradoxale et critique des clercs au sein du monde curial, c'est-à-dire auprès des princes et à proximité des jongleurs et des ménestrels. Alors de là, une hypothèse de méthode peut être proposée. Elle consiste, je l'évoquais en introduction, à prendre en compte le statut des concepteurs d'images, des auteurs des images du jongleur et de ses nominations aussi à l'écrit, en fonction des références culturelles, de la formation intellectuelle de ces auteurs, de ces concepteurs d'images, et puis de leurs objectifs. Alors au XIIIe, XIVe siècle, ce sont surtout des objectifs moraux. L'intérêt de cette méthode est qu'elle met en évidence un paradoxe qui peut s'expliquer par la chaîne de fabrication et de communication culturelle de l'image de jongleur, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui pensent et qui peignent, et il y a ceux qui regardent. Voilà, et ce ne sont pas forcément les mêmes. Alors cette chaîne, elle est importante parce pour le sujet d'aujourd'hui, elle se réalise en grande partie au sein de la cour ou dans les cours. Donc c'est là qu'elle peut être certainement la plus efficace, la plus comprise, la plus partagée. Alors, en amont, il y a donc les auteurs, entre guillemets, c'est-à-dire, d'une façon générale, au XIIIe siècle, les maîtres de la parole, je reprends la formule de Nicole Berlioux, à savoir les prédicateurs, mendiants, les maîtres des universités, qui sont aussi souvent théologiens, donc dans les studia anglaises, françaises, qui écrivent sur le jongleur, dans les sermons, dans les exemplars, et qui contribuent à la conception de ces figurations dans ces des nouveaux moyens de communication, à savoir les sermons, entre autres, hein, et les livres enluminés, c'est-à-dire la parole, et puis l'image. Autrement dit, ces auteurs sont les clercs, les lettrés, les religieux, censés ne pas fréquenter les jongleurs, ou ne pas être eux-mêmes des jongleurs. Hein, je repense au premier Carla Casagrande, Silvana Vecchio, et puis aussi en musicologie de Christopher Page. Et en aval de cette chaîne de communication se trouvent les nobles, hommes et femmes, qui connaissent, fréquentent, vous les connaissez bien, accueillent, emploient, aiment, protègent les jongleurs à leur cours et n'ont sans doute pas la même vision du jongleur que les clercs. Il y aurait donc une disjonction entre les milieux sociaux en tête et ceux à l'arrivée de la chaîne. Donc entre le statut social des penseurs, des clercs, des lettrés et celui des nobles laïcs. C'est pourquoi la rencontre entre la figure savante cléricale et le personnage social du jongleur dans les cours peut créer des malentendus. Alors on a commencé par nous les historiens et on a créé dans l'historiographie. Et dans les images, le jongleur des clercs n'est pas exactement celui des nobles, mais son image joue un rôle essentiel, ou en tout cas nous montre, est un exemple des transferts et des croisements culturels au sein des cours. Cette image du jongleur, elle permettrait aux auteurs, aux concepteurs d'images, de réaliser une sorte de distinction sociale au sein des cours. Donc, parmi des catégories sociales assez proches. D'une part, le jongleur permettrait aux clercs et aux religieux de se distinguer entre eux. Un prédicateur ne doit pas être un jongleur, un poète non plus, normalement. Je ne sais pas, hein, je vous pose la question. Et d'autre part, le clerc de cour ne doit pas être un jongleur non plus, alors qu'il en fréquente à la cour. Et en plus, il est clerc, alors c'est quand même compliqué. Donc voilà, je pense qu'il y a tout série de réflexions autour des différents statuts qui se combinent dans ces images. Alors, voyons, vous avez déjà vu là quelques couleurs dans un manuscrit qui est un petit format qui a été peint pour une dame de l'aristocratie. On n'en sait pas plus. Alors, c'est encore plus compliqué parce que là, c'est des images très, très simples, mais en fait, dans tout le manuscrit, il y a énormément de singes qui jouent la trompette par les fesses, etc. Enfin, il est assez connu. Donc, en fait, il y a quand même beaucoup de questions. Mais voilà, des chevaliers et des jongleurs. Et alors, donc, quel est le jongleur que les clercs ont fabriqué et qui serait arrivé dans les cours, entre autres par l'intermédiaire de ces livres enluminés? C'est ma deuxième partie. Alors, les modèles. La figure du jongleur est un héritage, elle n'est pas sortie de rien, c'est pas une image ex nihilo. Elle a été fabriquée, je pense, à partir de la culture savante au XIIIe siècle, XIVe siècle, qui est fondée sur les arts libéraux. Je pense qu'il ne faut pas les oublier, la grammaire latine, la rhétorique, je ne sais plus, enfin, ce qui peut nous concerner, la musique. Et puis elle est fondée sur la culture antique, l'exégèse biblique, la théologie, la poésie. Alors concrètement, au XIIIe et XIVe siècle, les clercs, les mendiants, héritent de l'istrio antique, païen et romain, frappé d'infamie et considéré comme immoral. Les raisons de cette dégradation sont juridiques, mais aussi sociales. Ce sont les travaux de Florence Dupont, entre autres, qui m'ont aidé pour le comprendre. Esclaves, l'istrio dansait nu au banquet, dans le cadre de relations homosexuelles avec son mécène et ses convives. Il était le ludion, le saltator de l'odium privé aristocratique. Transmis par le vocabulaire de Cicéron, de Saint-Jérôme, de Saint-Augustin, Isidore de Séville, etc., le mot istrio et l'istrio romain, impudique et scandaleux, est repris dans les conciles ecclésiastiques entre le IVe et le IXe siècle, même on le trouve encore au XIe siècle, pour condamner les prêtres et les moines dont les comportements moraux étaient répréhensibles et considérés comme semblables à ceux des histrionesses, à savoir banqueter avec des histrions, les fréquenter, y compris sexuellement, accepter de l'argent ou l'hospitalité des cours aristocratiques. Alors l'histrion antique, il est ainsi devenu chrétien, mais il est toujours resté marqué du fer du paganisme, des vices, de la goula, de la gourmandise, de la luxure, de la cupidité, de l'orgueil, du fait de son ancêtre au banquet aristocratique. Mais à partir du XIIe siècle, l'Istrio peut être décrit comme une pièce à double face ou même à plusieurs faces, donc comme une figure ambivalente de discours. D'un côté, ces marques immorales presque vivaces, la luxure, l'orgueil, etc. Mais de l'autre côté, dans un retournement complet, et merci Michel Zinc pour ses travaux, dans un retournement complet, notamment sous la plume de Bernard de Clairvaux, est créé un modèle monastique d'humilité par l'humiliation, comme le dit très bien Michel Zinc. Le modèle monastique d'humilité par l'humiliation du jongleur, alias le moine, offrant ses contorsions au regard des spectateurs célestes, comme le dit Bernard de Clairvaux. Alors cette figure de l'humilité, elle s'est aussi imposée dans les monastères bénédictins, par exemple chez Gauthier de Coincy. Alors l'image du miracle à Notre-Dame, elle était tellement floue que de la BNF, je ne l'ai pas mise. Donc voilà, cette figure, elle se retrouve chez Gauthier de Coincy, comme en témoignent ses récits de miracles à la Vierge, et puis aussi dans certains Cantigas. Mais surtout, cette figure est magnifiée au début du XIIIe siècle par François d'Assise, qui en fait un modèle de piété, de conversion morale, par le chant et la musique pour les frères de son ordre nouveau, les franciscains, Sumus, Iocola Torres, Dei. Alors, dans ce même manuscrit, dont je vous ai déjà parlé des feuillets, voilà, parmi les nombreux hybrides ou grotesques musiciens, on peut voir un franciscain musicien. Alors, les franciscains ont joué, et les dominicains aussi, ont joué un rôle essentiel dans l'usage de la figure du jongleur, dans les exemplats des sermons, dans la critique de cour et dans son transfert vers les manuscrits enluminés de la noblesse, du fait de leur présence dans les cours auprès des seigneurs, auprès des rois. À la même époque, au XIIIe siècle, dans les récits de miracles, dans la lyrique, et puis je pense qu'on pourrait compléter, dans les sermons, les sommes théologiques, le mot istrio est de plus concurrencé par un autre terme savant qui est iuculator. Alors la racine étymologique, mais là aussi j'aurais besoin de vous en savoir beaucoup plus, la racine étymologique du iuculator établit une relation intéressante entre les mots et les images. Le iucus signifie la plaisanterie, les farces, les jeux avec les mots, les jeux d'esprit. Je m'appuie sur les travaux de Michael Planchet à propos d'Abélard, qui se définit comme un iuculator. Et ces jeux d'esprit en pratique, dans les milieux scolaires, déjà dans les écoles romaines, et au XIIe, XIe, XIIe siècle, et puis ces jeux d'esprit en pratique dans les cours. Alors, au pluriel, iuci désigne les amusements. Il désignerait les amusements, les jeux en général, dont la musique, l'acrobatie, donc être habile avec les mots et par exemple avec la musique et le jonglage. Sur le plan de la chronologie et des différents corpus, on observerait donc d'une part l'emploi conjoint des mots istrio et iuculator au début du XIIIe siècle, on trouverait les deux mots, puis à partir des années 1250, l'abandon progressif d'istrion en latin, au profit de iuculator. Et d'autre part, à partir des années 1220, les figurations du jongleur, musicien, acrobate, dresseur d'animaux, je ne sais plus ce que j'ai dit, apparaissent dans les livres peints. Alors le iucus, jeu d'esprit, savant, latin, serait ainsi passé dans le décor de manuscrits qui sont des manuscrits, donc des objets précieux. Ceux que je vous montre sont dans les plus prestigieuses cours. Donc il serait passé dans les décors des manuscrits, réutilisé sous une forme visuelle et ambivalente, avec des traces des vices de l'istrio qui côtoient les vertus monastiques et édificatrices du iuculator, des mendiants. Alors de là, quelle méthode adopter pour l'étude de ces images médiévales du jongleur ? Alors, il y a les mots, comme je viens de le dire, et puis on verra les images. Alors, par l'analyse sérielle des images, je m'appuie sur les méthodes de Jérôme Bacher ou de Jean-Claude Schmitt, donc la mise en série des images, il ressort du corpus environ 1000 manuscrits que la période 1200-1350 est caractérisée par la production importante, je l'ai dit, des psautiers, des livres d'heures, des bréviaires, bien sûr dans les milieux religieux et cléricaux, mais de plus en plus dans les cours laïques. C'est un phénomène social dont l'ampleur est inédite. Et cette période correspond à la figure du jongleur dans les marges des manuscrits, en bordure. Paradoxalement, les romans, les recueils de poésie lyrique, les histoires ne comportent pas de figure du jongleur, ou quasiment pas, vous me direz. D'ailleurs, ces livres ne sont guère ornés, alors que leurs textes évoquent la musique et les instrumentistes, et alors que leur forme d'expression est vocale, lyrique et musicale. Alors, les mots pour décrire les images du jongleur et le nommer posent des problèmes de méthode. Je m'appuie sur l'histoire de l'art, sur les historiens d'art principalement. Les termes figure et figuration ont paru plus appropriés au jongleur que celui de représentation. La figure, c'est le sens, pour sens littéral, la forme extérieure d'un corps. Elle a pour sens l'ornement graphique. Et elle répond à des caractéristiques rhétoriques, mnémoniques. Figuration va avec et désignerait plus spécifiquement une image signifiante, agissant comme un signe visuel, comme un médium entre un support, un contenu, un lecteur. Ce sont les travaux de Hans Veltin qui permettent d'utiliser ce terme. Alors, ces termes sont importants pour éviter, je vous montre différents jongleurs en fait, ces termes sont importants pour éviter le piège de la, je l'ai déjà montré, de la projection actuelle, d'une projection actuelle sur des images passées. Si le jongleur à la forme extérieure des saltimbanques, je fais exprès d'utiliser, était ouvert du XIIIe siècle, ses contenus seraient d'une toute autre nature que celle de la représentation sociale, réelle, réaliste. L'image peinte du jongleur n'est pas une photographie réaliste. Les peintres se seraient servis d'une forme connue, liée au cours, liée à la musique, aux villes, et pour en faire une figure signifiante d'autre chose. Pour en faire un signe, porteur d'informations, un signe visuel, on pourrait même dire, comme le dit Marie Carpenter, c'est un signe cognitif, destiné à marquer les esprits, la mémoire, provoquer des émotions, marquer les âmes, ce qui est le but, en fait, des maîtres de la parole, des prédicateurs, des poètes, sans doute, de cette époque, et surtout pour le XIIIe siècle, une époque d'intense politique, on dira, de conversion des mœurs. Alors, toujours dans ce tissu. Et puis là et ici, je pense que je pourrais vous le montrer. Alors, la perpétuation médiévale des thématiques, hein, des topoi attachés à l'histrio romain et patristique, a créé des anachronismes, hein, je l'évoquais, et des décalages de sens, aussi bien dans les mots que les images, entre le jongleur des clercs et celui des nobles. Les figurations des jongleurs dans les psautiers consisterait en la réutilisation de l'image passée, ancienne, de l'histrio romain, lequel aurait été réactualisé, en fait réhabillé, en jongleur des XIIIe et XIVe siècles, se livrant à des activités propres à la courtoisie, le chant, la musique, le dressage d'animaux, la danse. Et surtout dans les manuscrits, ce qui est particulier, c'est qu'il est placé sous l'autorité d'un noble, entre guillemets, le roi David, harpiste, auteur entre guillemets des psaumes, préfigure du Christ, et selon le livre de Samuel, jongleur, humilié, dansant nu devant l'arche d'alliance. Alors, on voit qu'il y a en fait des montages culturels savants de cette figure. Et sur le support du psautier, destiné à l'aristocratie laïque, histrionie et noblesse seraient ainsi réunies dans cette relation historique et visuelle entre le jongleur et le roi David. Cette relation savante est une filiation fondée sur le modèle idéal chrétien de ce musicien, entre guillemets, de cette figure d'autorité sur les âmes aussi, dans la prière, dans le chant des psaumes. Alors je vous présente quelques exemples, hein, de représentation du roi David et puis de jongleur, et toujours dans le même manuscrit, c'est le roi David et tous ses autres jongleurs. Je pourrais vous les remontrer. Et je crois que j'en ai un. Voilà, David et puis le jongleur qui est ici en face, qui a toujours des parties nues qui est en train de bouger, on voit toujours les traces de la nudité. Alors, il faut replacer ces figurations dans leur contexte de cour des années 1300 en intégrant le fait que la cour serait implicitement représentée par le support même du livre, qui est un objet précieux, empruntée par la noblesse laïque aux milieux ecclésiastiques. Et cette représentation implicite fait partie de ces transferts des savoirs cléricaux vers les cours. Alors c'est ce qu'on voit dans cette dernière partie, où les contextes changent, hein, j'avance au XIVe et XVe siècle, en passant du côté des ménestrels. Alors pour ce qui est du ménestrel, on assiste à une sorte de rupture de rythme dans la chronologie du corpus. Hein. D'un côté, en rapport avec le contexte d'affirmation des pouvoirs royaux, princiers, urbains, les mentions des ménestrels dans les archives et dans les textes narratifs, mais là je m'en remets à vous, dans les années 1280, entre 1280 et 1500, là les choses changent. Et ces mentions sont dues à la production exponentielle hein, des documents administratifs, des archives, de la pratique, surtout les comptabilités, la justice. Et puis en conséquence, les nombreuses mentions des ménestrels s'expliquent par le statut officiel de ce type de musicien et de son rôle de représentation politique et courtoise dans les villes et dans les cours. Alors il est un ministrelus, c'est-à-dire un serviteur, un domestique, appartenant à la cour, mais je repensais aux questions hier d'Alexandra, proche, pas proche, la cour, moi de ce que j'ai appris pour la cour de Bourgogne, avec Gert Melville, avec Bernard Paravicini, où qu'elle se trouve, c'est le prince qui fait la cour, en gérant la proximité ou l'éloignement, si on fait rapidement l'Empire Elias, politique de faveur, défaveur, de concurrence entre les hommes, hein, donc... Le ménestrel, c'est très variable, s'il est proche ou pas proche. Alors le mot exprime des liens proches, en tout cas. Alors est-ce qu'on peut parler de parenté sociale? Je pense que ce serait un peu fort pour le ménestrel, mais en tout cas, ils sont dans l'entourage, et souvent proches, pour certains ducs de Bourgogne, de leur protecteur. Alors, d'un autre côté, on peut affiner la chronologie et montrer des décalages chronologiques, là aussi, entre les écrits et les images. Au tournant des années 1300, l'essor de l'écrit favorise les mentions, hein, je l'ai dit, et dénote la nouveauté de ce statut. Or, à la même période, il est peu présent, a priori, dans les images des manuscrits, quand je dis 1300. Ce n'est pas encore 1400, 1300. Et dans la période 1300, c'est le jongleur, entre guillemets, l'ancien, qui perdure sous la forme du yoculator, dans les marges encore. Des psautiers, mais qui est passé dans certains livres profs. Alors lui, c'est un magnifique cas particulier. Donc, c'est toujours le problème des magnifiques cas particuliers. Je l'avais supprimé, mais je l'ai quand même mis. Parce que voilà, il est dans beaucoup de marge dans ce fameux roman d'Alexandre. Là, on reconnaît le jongleur des psautiers de quelques décennies avant. Et puis hop, là, il entre dans les miniatures, dans la partie du vœu du pan, avec des scènes très courtoises. Alors, ma foi, je vous livre l'image et débrouillez-vous. Et puis, même on se fait séduire par les images. Alors, le ménestrel, il est mentionné dans, je ne sais pas comment le dire, dans les textes littéraires, entre guillemets, peut-être dès les années 1200, 1250, vous me direz. Puis dans les archives, et puis il gagne ce statut officiel, et il est représenté, alors c'est là qu'il y a un décalage, surtout dans les images à partir des années 1350. Il y a un décalage entre les mots, puis ensuite les images, un décalage d'à peu près 50 ans, entre l'écrit, et surtout l'écrit administratif, je vais dire ce que je connais, et les images. Donc cette émergence du ménestrel de cour, on l'observe, mais elle peut se voir aussi à travers le statut du roi des ménestrels, à partir de 1250, donc si je dépasse de 2 minutes, c'est parce que Catherine veut voir. Parce que là, j'avais aussi prévu de passer très vite. Le roi a donné le ménestrel. Donc ces rois des ménestrels, vous les connaissez, hein, ils apparaissent dans les villes à l'occasion des puits, hein, pour Arras, par exemple, pour Ypres. Et puis 1314, à la cour du roi de France avec la confrérie, enfin à partir de la confrérie parisienne, mais le roi en fait intervient directement dans la nomination de. Les ménestrels de la confrérie sont joués aussi à la cour de France, et puis le roi intervient dans la nomination du roi des ménestrels. Et puis ensuite au XVe siècle, eh bien, il y a le roi des ménestrels, par exemple en Angleterre, dans l'Empire germanique, et puis. À la cour de Bourgogne, donc il est élu pinceau, une marotte, et puis voilà. Alors j'ai un long texte sur le droit des ministres, mais je passe. Mais je montre à Adonai quand même. En Afrique, on le montrerait. Donc pour Adonai, mais vous connaissez très bien hein, ce manuscrit. Donc ici, on le voit avec sa couronne. Excusez-moi, l'image un peu de travers. Donc il rend hommage au duc Henri III, hein, si je me souviens bien, dans son poème Cléomades, et il est nommé ménestreux au bon duc Henri, fuit, signe, manœuvre et nourrit, et me fit mon métier apprendre. Et donc là, il s'adresse à la reine Marie de France, et puis à Blanche de Castille, et puis il est en compagnie de Jean II de Brabant. Alors, il ne joue pas, hein, on voit son geste avec la main. Et puis, alors, c'est coupé, je suis désolée, mais ici, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans la lettrine, il est à nouveau représenté, mais pas avec son instrument, mais en train d'écrire le roman sur les tablettes avec un stylet. Donc, et puis, il prolonge avec les vers qui se prolongent. Et puis, tout au long du livre, il est figuré en lettrine en train de déclamer. Donc, on a vraiment, à chaque fois, là aussi, vous voyez, des statues, des facettes différentes. Il est roi des ménestrels, il écrit, il déclame, il est poète, bon, voilà. Alors, j'avance, et pour arriver à la fin, avec toujours dans ce contexte de l'essor des pouvoirs princiers, royaux, et dans le contexte de la guerre de Cent Ans, en avançant dans la chronologie, les cours en tant que structure sociale deviennent sont des organisations de gouvernement et de représentation politique de plus en plus complexes, avec des rouages administratifs et domestiques de plus en plus sophistiqués et hiérarchisés. Alors ces cours ont rémunéré toute une domesticité, un ministerium, dont font partie les ménestrels. Alors à la cour de Bourgogne, ils sont tout en bas de la hiérarchie. Après eux viennent le roi des Ribauds. Vient le roi des Ribauds. Donc on est vraiment. Mais il n'empêche qu'ils sont très bien traités hein, pour la Bourgogne. Pour assurer la représentation et la communication, entre guillemets, hein, de leur image et de leur puissance politique, les cours ont pris à leur service, alors je rejoins en fait ma problématique de jongleur, elles ont pris à leur service des chroniqueurs et des mémorialistes, je pense à la Bourgogne, des chantres et des compositeurs polyphonistes, des copistes et des enlumineurs, des artisans et des artistes. Donc voilà, il y a tous ces hommes principalement qui travaillent dans le système du mécénat. Alors par exemple, à la cour des ducs Valois de Bourgogne, 1363-1477, on observe une concomitance, une cohérence entre d'un côté les mentions régulières et constantes hein, des ménestrels dans les comptabilités attestant de leur emploi à l'hôtel ducal. Philippe le Hardy, le premier des ducs Valois, a un noyau dur de 7 ménestrels réguliers pendant 20 ans de règne, et puis auquel il ajoute d'autres ménestrels qu'il envoie chercher, par exemple à Cologne, il sait qu'il y a des bons points de Cologne à Cologne, il envoie les chercher pour venir jouer, et puis il reçoit beaucoup de ménestrels aussi, la cour de Savoie, cour de France, il en envoie à la cour d'Angleterre, voilà, il y a toute une grande mobilité de ces ménestrels, et puis on a vraiment la mention des gages, des pensions, et même pour certains de ces ministrels qui l'ont servi jusqu'au bout, qu'ils ne peuvent plus jouer, il dit qu'il faut leur verser des gages, une pension annuelle en raison de leur grand âge et de leur loyal service. Donc il les entretient bien. Et son petit-fils, Philippe le Bon, dans les années 1450, il est très proche de ses trompettistes. Et Charles Téméraire aussi, il aime manger avec. Il est le parrain de certains enfants, ils leur offrent des gobelets d'argent. Donc voilà, ils sont en bas de la hiérarchie, mais ils se connaissent, ils sont proches. Alors, ça, c'est les mentions dans les comptabilités, mais d'un autre côté, les romans, les chroniques, hein, nombreuses, commandées ou destinées aux ducs et aux membres de la cour, sont enluminées de scènes de banquet en musique, ou bien, avant, j'en parlerai pas, mais voilà, et voilà, par exemple, au service de la guerre, c'est une scène plus et puis c'est trompettiste. Et donc dans les chroniques, dans les chroniques de Froissart, ils sont insérés surtout dans... Ah oui, je voulais vous montrer les comptabilités. Je ne sais pas pourquoi. Nicolas d'Alphand, voilà, ils sont nommés. Jean de Dinan, Loiselle-Mouillet, donc ça c'est, et puis le conte, hein, excusez-moi, j'ai bougé la ligne, mais je passe sur le conte, donc pour ce qu'ils ont fait, là c'est pour leurs étrennes qu'ils ont reçues, et puis voilà, c'est encore Nicolas Delamarche, c'est son trompette, hein, il a reçu une trompette en argent, il est envoyé aux étrennes voilà, pour acheter une trompette d'argent, etc. Et voilà, une scène encore de cours, de bal, mais je voulais vous les montrer au banquet, parce qu'en fait, c'est dans ces scènes-là qu'ils sont les plus présents. Alors, donc ils sont très représentés dans ces scènes-là. Toutefois, les ménestrels sont très peu mentionnés dans les textes, dans les chroniques, dans les textes de ces manuscrits et dans les récits narratifs qui décrivent ces banquets. Donc on les voit dans les images, mais ils sont peu présents. Enfin, la mention est très, très rare. Alors au niveau de ces différents corpus, hein, entre les images et les textes, le rapport des mentions est inversé. Les ménestrels sont peu présents dans les textes, les chroniques, mais très représentés dans les images des livres. En l'occurrence, ceux qui les mentionnent peu, les chroniques, les romans. Alors, dans ces ouvrages enluminés des ducs de Bourgogne, mais aussi des rois de France, d'Angleterre, le ménestrel ou les ménestrels sont aisés à identifier, comme lors des cérémonies de cour, donc comme dans la réalité, j'ai envie de dire, et bien dans les images, on les reconnaît avec leur livret en couleur, leur livret de couleur. Ils jouent d'un instrument de haut, de la trompette ou de tambourin. Et c'est exactement ce que l'on trouve dans les comptabilités que je vous ai montrées. Et les scènes, comme je l'ai dit, sont surtout, ce sont des miniatures et non plus des marges. Et il s'agit avant tout des banquets. Et là où les ménestrels sont des acteurs indispensables et efficaces de la mise en scène du pouvoir politique, alors là j'ai mis une entrée solennelle, mais je vais rester sur le banquet, et de la représentation de la cour. Alors voilà pour le banquet, mais en préparant cette conférence et pour terminer, je me suis demandé, dans les librairies des ducs, et donc dans les manuscrits en ligne, il y a aussi beaucoup d'exemplaires dits et faits des Romains de valeur maximale, donc qui est un enseignement moral, et où on voit toujours, voilà, le valeur maxime qui enseigne à l'empereur, on les voit toujours en train de regarder la scène, il y a des musiciens, et quand il y a des musiciens, c'est encore dans des scènes de banquet, et toujours pour dénoncer les mœurs débauchées des Romains, hein. Donc voilà, voilà ce que font les Romains, ils vont à la taverne, et il y a un musicien, alors là on est au banquet avec les excès du repas, de trop manger. Et puis, sinon, toujours dans ces manuscrits, c'est dans les scènes d'étuves. Alors, en préparant le colloque, je me suis demandé si, en fait, on n'avait pas encore des restes de cet histrion antique, toujours lié voilà, au sexe et au banquet. Donc, toujours une façon, certainement, pour ces mémorialistes, pour ces clercs à la cour du XVe siècle, pour ces peintres aussi, même si c'est des avatars peut-être un peu éloignés, mais de rappeler qu'ils savent aussi, hein, qu'ils ont cette connaissance du texte, hein, des effets de valeur maxime, et aussi de ces images, de ces modèles anciennes. Donc, on peut lire, donc, et je termine avec ça, ces livres et ces images porteraient en fait la marque intellectuelle et sociale des lettrés de la cour, les chroniqueurs, les curieux, les poètes, les clercs, la marque des peintres, des enlumineurs au service de la cour. Il y a certes les représentations, pour celle-là, les représentations des rituels et des pratiques de cour en musique au service du pouvoir, mais il y a aussi la représentation des savoirs deux catégories sociales très actives, les chroniqueurs, les poètes, les moralistes, les courtisans avant l'heure, les metteurs en scène, on pense à Olivier de la Marche, hein, grand organisateur du banquet du Faisan de Lille en 1454. Et donc ces images, enfin tous ceux qui travaillent autour de la musique et de ces livres enluminés se montrent aussi, hein, implicitement comme étant de ce monde de la cour. Hein. Voilà, je fais partie de ce monde. C'est pour ça que j'ai pensé que pour les ménestrels, d'ailleurs que j'utilise au pluriel, le terme « représentation » serait plus approprié, et justement au monde de la cour, hein, qui se représente sans cesse, et qui représente aussi en arrière-plan, vous l'avez compris, cette catégorie des savants, des lettrés. Et puis, alors que pour le jongleur, on est dans un monde plus, beaucoup plus savant quand même que la cour, et puis de prédication, de parole, d'édification morale, très marquée par les mendiants, hein, de pédagogie. Donc le terme de la figure qui veut toucher la mémoire, les cœurs, l'âme, là on est plus dans des objectifs qui visent l'âme, des objectifs moraux, alors que là, ces représentations dont font partie les ménestrels visent plus la memoria, hein, de la cour et puis la postérité. C'est une politique différente en fait de l'image. Voilà, je vous remercie.